de mon côté, je dois faire des excuses par rapport à William Bertomière et Anouche Comte. En fait, c'est eux qui organisent, qui ont organisé cette année, encore une fois, cette rencontre qui a lieu depuis quelques années entre Migrantaire et l'espace Mendès France. Alors, présenter Fabio Amato, c'est un... Oh, mamma mia. C'est un vrai plaisir. Alors, comme il dit, comme il aime se définir, c'est un géographe social, ça il faut le souligner. Et il s'est beaucoup occupé des migrations. La migration représente son objet d'étude principale. Notamment, à partir des années 90, il a suivi d'une certaine manière toutes les transformations des migrations en Italie en regardant de manière particulière et spécifique les phénomènes, comme vous allez aussi découvrir, à partir du Mezzogiorno et notamment de Naples. Parce que, effectivement, c'est un lieu d'observation et je pense que c'est aussi un lieu de questionnement des migrations d'une manière beaucoup plus générale et beaucoup plus large. Il parle très bien français parce qu'il a passé son DOA à Cannes. Donc, à l'époque, c'était sur les enjeux des banlieues, la politique urbaine en Italie et en France. Et ensuite, sa thèse de doctorat portait sur les phénomènes migratoires et l'économie informelle, donc sur Naples. Ça aussi, c'est une autre spécificité, je dirais, du parcours intellectuel, du parcours de recherche de Fabio. Il tient beaucoup à cette articulation entre phénomènes migratoires et questions économiques, et notamment donc aussi les questions informelles sur lesquelles je pense qu'on va revenir. Je ne reviens pas sur les nombreuses recherches qu'il a gérées depuis des années, qu'il continue à diriger. Je rappelle deux ouvrages fondamentaux et importants. Tout d'abord, La trace de l'immigration, qu'il a dirigé avec Coppola, qui était un géographe social très important, qui a impulsé vraiment la géographie sociale en Italie, et l'ouvrage des migranti habitanti, donc là aussi comment les immigrés deviennent des habitants des villes, et je pense que là aussi c'est un ouvrage de référence pour ceux, celles qui s'intéressent aux questions migratoires, notamment, comme je vous ai dit, à partir d'un regard géographe, mais d'une géographie sociale qui nous parle énormément, même quand on travaille dans d'autres disciplines. Voilà, je laisse la parole, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Ça va ? Pour l'instant, ça va. Donc, je laisse la parole à Fabio. Okay. Alors, je pense qu'il faut se rapprocher, par contre.
Oui, d'accord. Alors, bonsoir à tous et merci pour l'invitation de cet espace. J'ai eu l'occasion de passer ce matin pour la conférence ce matin. Donc, j'étais franchement content d'y être parce qu'il me semble que essayer de fertiliser les choses qu'à l'université on est en train de faire avec des espaces, avec la ville, c'est quelque chose de pas évident. Et surtout, c'est quelque chose qui nous donne, en tant qu'universitaires, la possibilité de réfléchir et de se confronter avec la société. Je vais vous raconter, avec toute une série de passages d'échelle, qu'est-ce qui se passe au niveau des migrations internationales en Italie. Donc je commence avec ça, c'est une espèce de bricolage avec des images, d'un certain côté aussi un peu stéréotype par rapport à l'Italie et les migrations. On commence avec les rapports qu'on a. On commence en bas à droite avec l'immigration qui vient de l'Afrique. C'est la façon avec laquelle la perception au niveau de la société est le plus souvent fondée. Sinon, avec les drames, avec les débarquements et les morts qu'on a très souvent, surtout par rapport à l'île de Lampedusa, et avec toute une série d'images qui font référence par rapport aux véritables changements territoriaux en Italie, c'est-à-dire les commerces, l'habitat social, les changements de la ville et surtout les changements au niveau du profil démographique, parce qu'en fait, il faut le dire, cette image avec ce monsieur-là qui s'appelle Balotelli, c'est un joueur de foot très renommé il y a quelques années, et c'est un peu le point de repère par rapport au changement en Italie. Ce qui s'est passé, l'histoire, la tradition d'immigration en France, au Royaume-Uni, ça change beaucoup par rapport au profil social, culturel et démographique, bien évidemment. En Italie, c'est une histoire relativement récente, et donc, vu que l'Italie, c'est un pays encore lié au ce qu'on appelle ius sanguinis, c'est-à-dire le droit par rapport à qui sont pardon, droit du sang. Et les changements, par exemple, juste pour garder la comparaison au niveau toujours du football, ce qui s'est passé, par exemple avec l'équipe de l'Allemagne, c'est quelque chose de tout à fait différent. Comme vous voyez, maintenant, on a des noms et des prénoms qui viennent polonais, des noms et des prénoms qui viennent de la Turquie, etc. Les choses ne sont pas les mêmes en Italie, mais on a eu quand même des changements parce que ce monsieur-là, par exemple, au-delà de ce qu'on peut penser en tant que personne, parce que moi, j'aime pas beaucoup, mais c'est fils d'une femme d'origine nigérienne et d'un monsieur italien. Donc, ça, et le fait qu'il a eu succès a la démonstration que le changement est visible aussi au niveau des médias. Donc, désolé, ça c'est toujours la même. On démarre avec ce dont on parle le plus souvent dans les médias. Les débarquements, le changement, la soi-disant crise des migrations qui s'est passée surtout au niveau de la Méditerranée. Il faut remarquer le fait que ça, c'est quelque chose c'est un changement important au niveau du système migratoire. C'est quelque chose pour le nombre qui est décidément différent, carrément différent par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières années. Par exemple, je parle à l'échelle de la Méditerranée. En 2015, on a eu le débarquement de plus qu'un million de personnes, surtout du côté est, à savoir en Grèce. En Italie, il n'y avait que 100 000, pas plus. Mais c'est par rapport aux années précédentes, c'était déjà quelque chose de plus important. Donc, c'est la crise. Les données 2015 sont celui-là, 1 million, 8 000, etc. On a eu aussi des drames très importants, presque 4 000 personnes qui sont mortes ou disparues. Donc, l'Italie, et surtout la société civile de l'Italie, pense aux migrations de ce côté-là, de ce point de vue-là, qu'on ne peut pas, bien évidemment, nier, parce que quelque chose a changé, pardon. Mais en même temps, il faut réfléchir sur le fait que peut-être, si en même temps, comme on va voir, on a déjà plus de 5 millions d'étrangers qui vivent tranquillement et qui sont domiciliés officiellement en Italie, ça veut dire qu'il y a deux côtés sur lesquels on peut jouer. Donc, le côté des flux et le côté de la stabilisation. Tu avais dit hier. Stabilisation,
installation.
installation. Ok. En fait, il faut remarquer qu'il s'agit d'une crise avec aussi, je crois qu'au niveau international, au niveau européen quand même, ces images que vous voyez sont très connues et surtout, je pense surtout à la mort de pauvres enfants d'origine kurde, pardon, d'origine syrienne qui est mort sur la plage de la Turquie, ou sinon des images des frontières qui sont franchies en Serbie, en Grèce, etc. Donc c'est vraiment un changement qui nous met dans la condition de ne pas avoir tous les éléments de compréhension du phénomène. Sauf si on reste toujours à regarder le phénomène avec les lunettes anciennes. Excusez-moi cette métaphore, je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est vraiment, à mon avis, c'est quelque chose qui fait partie d'un système migratoire tout à fait différent. Et si on n'arrête pas de parler de crise, d'exception, on n'arrive pas à réfléchir sur ce qui se passe dans la Méditerranée. Je ne sais pas pourquoi sont doublés. Mais c'est un scénario nouveau, imprévisible, comme vous voyez, qui est changé en 2016, après toute une série de passages aussi au niveau, même aussi au niveau géopolitique, avec les rapports entre l'Union européenne et la Turquie, le fait qu'on a eu des sources données à la Turquie pour arrêter, en fait, d'un certain côté aussi pour bouger, entre guillemets, les frontières de l'Europe à l'Est. D'accord ? Donc ça veut dire un ralentissement important par rapport à la Grèce, mais en même temps, les migrations ont continué à partir en direction de l'Italie, surtout en 2016, mais aussi dans les premiers mois de 2017. Donc, ce qui change, c'est surtout que, et ça c'est le dernier passage sur lequel je voudrais m'arrêter, sont les gens qui viennent en Italie sont des gens qui viennent surtout de l'Afrique subsaharienne. Et donc, ça veut dire qu'il s'agit apparemment de migrations, entre guillemets, de type économique. On ne peut pas parler de réfugiés, même si on a bien évidemment des problèmes. Et donc, si on échappe et si on est en fuite de la Nigérie, de la Gambia, du Tchad et de tous les pays qui, Togo par exemple, est beaucoup monté dans les dernières 2-3 années en Italie, ça veut dire que quelque chose se passe dans ces pays-là, parce que je crois qu'en principe c'est difficile d'imaginer que quelqu'un a envie de partir. La perception qu'on a, la façon de raconter cette histoire, c'est qu'il s'agit plus ou moins des touristes. Ils ne sont pas des réfugiés qu'on a droit, au mieux, ils ont eu droit à tous les respects, mais il s'agit d'une migration économique, et donc c'est un choix qu'ils font, et donc on peut les laisser tomber. C'est ça, la façon avec laquelle les médias, surtout, racontent cette histoire. Toutes ces choses-là, on n'a pas le temps d'y y passer, mais bien évidemment, sont des éléments qui font monter un côté un peu populiste par rapport à dans tous les pays d'Europe, comme vous savez bien aussi en France. Donc, j'ai envie donc d'essayer de raconter qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Italie, au-delà des réfugiés, au-delà de la crise, soi-disant, au-delà des débarquements qui sont en tout cas un problème, c'est difficile à gérer. On a mis en place, surtout en Italie, toute une série d'instruments, toute une série de centres pour accueillir, pour essayer de filtrer, entre guillemets, ces arrivées. Mais il faut dire qu'il faut commencer à regarder au phénomène migratoire, surtout par rapport à ce qui s'est, dans les dernières décennies, s'est sédimenté au fur et à mesure. Non, c'est le mien. C'est pas le mien. C'est le tien. Oh, très bien. Elle est fière, entre guillemets, entre parenthèses, de ne jamais avoir. Elle se moque de moi parce que j'ai reçu toujours des coups de fil. Et donc, ça, c'est la némésis. Et donc, c'est elle. OK, excusez-moi. Donc, l'Italie et ses migrations. Donc, ça, on va retourner, mais en fait, ça, c'est une autre synthèse d'image pour démontrer que les choses se sont changées beaucoup en Italie, avec les mariages mixtes, avec les entrepreneurs, surtout les Chinois, les Marocains, avec l'insertion dans l'habitat, dans les niches les plus pauvres, les plus marginales de l'habitat, et l'agriculture dont on a eu l'occasion de parler à Migranter, et avec les changements aussi du temps libre, comme on va voir en ce qui concerne la vie de Naples. Donc, voilà des données. Une augmentation de la présence à partir des années 2000. Une augmentation très importante. Jusqu'à les dates que j'ai choisies ne sont pas par hasard, mais sont liées. La première, bien évidemment, c'est la première fois que quelqu'un a pris en charge l'idée de compter combien ils sont les étrangers en Italie, c'est 1971, Sinon, au fur et à mesure, on a des données qui font référence par rapport aux lois liées au phénomène migratoire. Donc, c'est l'année après les lois, c'est la première loi, c'est 1986, et après 1990, etc., etc. Comme vous voyez, à partir de 2000, on arrive à 1 million d'étrangères en 1977, mais on double dans 7 années, et on double encore une fois dans une dizaine d'années. On est arrivé à plus de 5 millions de personnes qui sont... Et quand on utilise ces quantités-là, ces numéros-là, on parle des gens qui sont régulièrement présents en Italie. Parce que l'alias qui fait référence à la présence des clandestins, des gens qui sont en condition de clandestinité ou d'illégalité, ne sont pas dans les données qui... je vais vous montrer. C'est une composition hétérogène, hétéroclite, avec une présence importante de l'Europe en général, et surtout de l'Europe de l'Est, de centre-Est. J'ai choisi de couper, de ne pas lier à ce qui est l'Union européenne aujourd'hui, mais de... en rose, vous voyez l'Europe à 15, donc l'ancienne composition de l'Europe, et après, avec les autres pays qui sont ajoutés à partir de 2004, et donc l'ouverture à Est. Dernière notation, je ne vais pas rester sur cette image beaucoup de temps, parce qu'on a pas mal de choses à raconter, mais comme vous voyez, par rapport à l'Afrique, même aujourd'hui, même face aux changements dont on a parlé avant, l'Afrique, ce n'est qu'un cinquième de la totalité des étrangers présents en Italie. Voilà le classement des nationalités. Je vous montre ça avec quatre années différentes et avec chaque bâton. Ça s'appelle les bâtons, non ? Du diagramme. Vous avez compris, je vais avant. En vert, c'est 1990, 2000 en jaune, rouge, c'est 2010, 2015, c'est en bleu. Comme vous voyez, le changement concerne surtout les pays de l'Europe de l'Est. C'est surtout la Roumanie qui arrive à plus qu'un million de présences. Sinon, Albanie et Maroc sont deuxième, troisième, et ils sont avant l'exploit, entre guillemets, de la Roumanie. Albanie et Maroc jouaient à qui les deux au cours des années 90 et 2000 pour avoir la première place dans ce type de classement. Comme vous voyez donc, les changements les plus importants concernent les pays de l'Europe de l'Est. Et comme vous voyez aussi, si on arrive à saisir l'information en vert, les bâtons en vert, vous voyez par exemple le Sénégal. Je vais voir si j'arrive à... Non, pas du tout. C'est pas grave.
Je vais me lever. Je vais crier comme ça. Nigérie, Sénégal, Sri Lanka et Tunisie, qui c'était les pays avec lesquels on pensait que pouvait monter de plus en plus la présence. En fait, ça, sauf peut-être le cas de la Tunisie, pour les autres, ils sont restés plus ou moins à un niveau moyen, où la croissance était carrément plus faible par rapport à ce qui s'est passé avec les pays de l'Est.
Alors, premier passage d'échelle. La présence, le poids par rapport aux régions. Donc, vous voyez dans toutes les régions les premiers deux nationalités par classement. Bien évidemment, Roumanie, Albanie, Maroc sont les plus importantes. Ça, c'est évident par rapport au. Ah, quelle belle. Merci. J'étais en train de penser d'avoir oublié ça. Je peux faire ça et ça. Ok, bénisse. Merci. Ça va? Ok, merci. Et alors, vous voyez ici, vous avez les premiers deux nationalités, Roumanie, Albanie, Maroc, etc. Et vu la quantité dont on a parlé, c'est évident qu'ils sont plus ou moins un peu partout, mais il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau des exceptions. La première exception de nord à sud, c'est la présence de l'Équateur au premier niveau, à la première place dans la Ligure et surtout dans la ville de Gênes. Sinon, on a les Philippins, mais dans le Latium, surtout c'est la ville de Rome, et c'est le rapport qu'on a, je crois, surtout par rapport à l'aide au domicile. Sinon, on a encore une exception, c'est la région de Naples, c'est-à-dire Campanie, avec les Ukrainiens qui sont à la première place. Et enfin, vous avez aussi encore la Tunisie qui garde un rôle important, qui, comme on allait voir, c'était un des premiers nationalités qui s'est installé en Italie. La chose qui est, en fait, j'avais déjà dit avec le titre, c'est une présence importante, surtout dans les régions du centre-nord. Je vais expliquer tout ce que vous voyez en bleu plus ou moins foncé, c'est lié aux régions qui dépassent la moyenne de 4%. C'est toujours le rapport entre les étrangers et les habitants des différentes régions. Donc, comme vous voyez, ce sont surtout ceux de là, les deux ici en bas, que vous voyez, qui démontrent qu'ils sont au même niveau de la moyenne italienne et qui dépassent même la moyenne italienne. Donc, vous avez la Lombardie, Vénétie, Émile-Romagné et Ombrie qui sont au-delà des 10%, ça veut dire plus de 10 étrangers régulièrement présents en Italie par rapport à 100 habitants, et ça veut dire un changement du profil culturel, social, économique important de ces régions et de ces villes. Encore un passage d'échelle. On est passé aux provinces, ce qu'on appelle provinces, à savoir les départements en France. Comme vous voyez, on garde toujours ça, c'est en valeur absolue. Et donc, comme vous voyez, au-delà de 100 000, vous avez surtout dans la région de Milan, la région de Turin, l'Émile-Romagny, Rome. Et on a, au niveau des valeurs absolues, finalement, quelque chose qui touche aussi le Mezzogiorno, le sud de l'Italie. Et donc, les villes les plus importantes comme Naples, Bari, Palerme, Reggio Calabria, sinon Salerno et Caserta, dont on va parler après, parce que le passage d'échelle nous portera jusqu'à la région Campanie. Mais si on fait le même travail au niveau pourcentage, bien évidemment, ça change beaucoup. Comme vous voyez, le Mezzogiorno de l'Italie est presque disparu, sauf pour ce cas-là tout à fait particulier, c'est la Provence, la provincia de Ragusa, où on a une concentration de plus en plus de... Ils ne sont pas tunisiens, simplement tunisiens marocains, ils ne viennent pas simplement du Maghreb, comme c'était tout au début, parce que c'est une question de distance géographique par rapport au Maghreb, mais maintenant on a pas mal de gens qui viennent de la Roumanie, qui viennent de l'Ukraine, parce que c'est une région où les exploitations agricoles montent avec une façon intensive selon le modèle, entre guillemets, méditerranéen d'exploitation des travailleurs à la californienne, pour être encore plus clair, ce qui se passe en Californie par rapport aux migrants qui en provenance du Mexique. Donc, quelques passages. La synthèse, ce que je veux vous dire, qu'au-delà de la perception, au-delà d'une histoire très importante de pays d'émigration, il ne faut jamais oublier l'histoire d'Italie comme pays d'émigration un peu partout. Il y avait un ancien président de la République qui s'appelait qui s'appelait Einaudi, disait « Les Italiens sont allés partout ». C'est une phrase banale, mais qui expliquait vraiment la présence des Italiens partout. Donc, on a un héritage très important des migrations, et peut-être c'est pour ça qu'on a du mal, on a eu du mal à comprendre le changement là, des directions. Mais en fait, on peut dire qu'on a passé les 40 ans d'immigration, et donc on ne peut plus parler d'exception, on ne peut plus parler de quelque chose qui nous est arrivé d'emblée, qu'on n'arrive pas à le comprendre, qu'est-ce qu'il s'est passé, etc. Il faut ajouter entre parenthèses un autre aspect dont Enrico Pugliese, qui est un des sociologues les plus fameux et les plus renommés en Italie sur le thème des migrations, que les migrations avec la E des Italiens à l'étranger ne s'est jamais arrêté. Simplement, on a eu un ralentissement et on a eu aussi un changement du profil, c'est-à-dire c'est une migration plus qualifiée, mais les Italiens ne sont jamais arrêtés d'émigrer. Et ça se voit surtout par rapport au profil des gens avec une maîtrise, etc. Donc, mais bref, pour rentrer sur notre sujet, il faut remarquer le fait qu'on a passé les 40 ans d'immigration, donc on ne peut pas justifier ça avec une exception, avec faible capacité de comprendre ce qui se passe. Cette faible capacité est arrivée à un silence législatif jusqu'à 1986. Jusqu'à ce moment-là, même si aux années 70, on a eu, comme on allait voir, déjà des migrations, c'était la première loi. Avant, quand on parlait des lois en Italie par rapport aux travailleurs étrangers, la tête était toujours aux Italiens qui étaient ailleurs. Mais l'accent des médias est toujours sur les débarquements et sur les aspects les plus dramatiques. Donc, l'usage du mot extra-communautaire, qui était, je crois, inventé en Italie, la loi dont on parle en 1996, le titre de la loi parle de lavoratori extra-communautaire, travailler extra-communautaire. La question c'est qui. D'un point de vue linguistique, est correct, parce que extra, ça veut dire au-delà de l'idée d'être inclusion, exclusion. D'un point de vue linguistique, est correct. Tous ceux qui sont dehors de l'Union européenne, on peut les appeler, bien évidemment, extra-communautaires. La question est qu'on utilise ce mot-là aussi pour les Roumains, pour les Polonais et pour tous les gens qui viennent de l'Est. Et, en revanche, on n'utilise pas ce mot pour les gens du spectacle, du sport, qui ont eu succès, donc les Américains, les Japonais, les Suisses, qui sont correctement, eux aussi, même le pape, qui vient de l'Argentine, on pourrait lui appeler tranquillement extra-communautaire, comme lui-même, certaines fois, essaye d'expliquer. Les passages des 40 années dont on parlait, perché ogni volta c'è doublé, désolé. Voilà, l'évolution. En fait, on a eu des traces déjà à partir des années 60. C'est un petit héritage d'une histoire coloniale. L'italien, surtout dans la Grande Afrique, donc des gens qui venaient, qui suivaient la bourgeoisie italienne qui rentrait en Italie, donc qui venait de l'Érythrée, de la Somalie, de l'Éthiopie. Et on avait déjà des petites communautés de Chinois, surtout dans les villes les plus importantes, Milan et Rome. Et on avait aussi des cadres, des entreprises multinationales. Années 70, les trajectoires liées à la distance géographique sont un élément qu'il faut prendre en compte pour deux niveaux différents. Au nord-est, au Frioul, avec les Slaves, les Yougoslaves qui arrivaient pour des travaux saisonniers, surtout liés à les travaux dans le bâtiment après un tremblement de terre de 1976. Ou sinon, ce dont on dont évoqué avant, la présence des Tunisiens qui arrivaient au sud de la Sicile pour faire des travaux saisonniers dans la pêche et dans l'agriculture. Les années 80 sont les années dont le secteur de l'aide à domicile, surtout c'est les Philippins, les Péruviens, les Dominiciens, etc., qui arrivent. Mais on a aussi une hausse très importante aussi de la présence des Africains dont on parlait avant. Donc les Sénégalais, les Nigériens, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens aussi, qui ont une présence la plus importante après, avec les années 90. Les années 90 sont le moment où tous les systèmes migratoires se renforcent et où surtout s'ouvre un autre système, c'est le système migratoire en provenance de l'Est de l'Europe. La chute du mur de Berlin, la fin du système socialiste et toutes les choses que vous connaissez très bien. Les années 2000 sont une hausse rapide, un peu comme on a vu, un peu pour toutes les communautés, mais avec les Roumains qui deviennent la première nationalité. Ok. Encore un passage d'échelle, c'est on essaie de rester un peu sur ce qui se passe au niveau des provinces, toujours des départements, comme on a dit, les plus importants. Rome, Milan, Turin, Brescia. Brescia, il faut la remarquer parce qu'il s'agit d'une province de la plaine du Pô, pas loin de Milan, avec une présence très importante qui touche 13-14% de la présence des étrangers. Sinon, Bergame, c'est plus ou moins pareil. Et on est plus ou moins dans le même coin, même si on ne peut pas dire aux gens de Bergame que vous êtes la même chose de Brescia, parce que nous avons une tradition de guerre entre les villes qui sont proches. Sinon, Florence, Boulogne sont autres villes, je crois, renommées, suffisamment renommées. Donc, je ne dois pas expliquer jusqu'à Naples, dont on va parler bientôt. Sinon, l'autre, c'est Vérone, c'est l'exemple du changement aussi dans le nord-est et surtout dans la Vénétie. Toutes ces provinces-là ont franchi la limite de 100 000 présences. Les villes comme port de l'immigration, c'est un peu la considération un peu entre guillemets provocation que ça m'arrive de présenter. C'est-à-dire, je sais bien que le défi de l'immigration est lié surtout aux frontières. Je sais bien que l'immigration, c'est quelque chose lié aux politiques internationales et au niveau géopolitique. Mais si on a, et ça signifie, à mon avis, aussi avoir un peu un regard géographique, si on va voir qu'est-ce qu'il se passe au niveau des lieux, on n'aura jamais la possibilité de comprendre les véritables changements. Donc, ce n'est pas simplement une question de frontières et de sécurité surtout, parce que ça, c'est un autre aspect dont on a, je crois, suffisamment parlé avant. La façon aussi au niveau scientifique de regarder le phénomène migratoire entre deux pôles, le pôle de la sécuritisation et de l'humanitarisme, signifie de ne pas avoir la perception des changements et de ne pas avoir la possibilité de regarder d'une façon normale aux changements. Donc, c'est vrai, sécurité, la peur, le populisme, et ça c'est évident, mais de l'autre côté, je trouve, si il s'agit de quelque chose aussi dangereux, regarder les choses avec un regard en disant les pauvres, il faut les accueillir, etc. En général, les migrants sont des gens normaux, qui ont une vie normale, et c'est ça peut-être la chose la plus difficile à expliquer. Et je parle de l'Italie. Donc, ce sont trois images des villes Très rapidement, ça c'est Brèche dont on parlait avant, avec la fête des Sikhs. La fête des Sikhs que tous les années, vous avez dans la place la plus importante, Piazza del Carmine, à Brèche, qui change complètement l'image et le paysage urbain. Sinon, on a ici, ça c'est le marché de Porta Palazzo, la ville de Turin. Le changement le plus important par rapport à ce marché-là, c'est la présence au niveau des entrepreneurs et au niveau des usagers, des migrants. Mais ça, c'était un marché pour les migrants internes italiens. Ici, travaillaient beaucoup les méridionales qui sont partis pour Turin après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, même place, même marché, changement. Sinon encore, on a là, ça c'est Milan, c'est un des rues les plus, il s'appelle Via Pavia, c'est un des rues où la présence des Chinois est la plus importante. Mais le fait déjà d'appeler cette deux, trois rues sinisées comme Chinatown, ça signifie avant tout, selon moi, de ne pas avoir idée de qu'est-ce que c'est une Chinatown, en Italie, je parle, et de l'autre côté, avoir aussi la méfier par rapport au changement avec un stigme par rapport à ça. Je vais vite. Toujours doublé? Non. OK. Dernier passage d'échelle, c'est au niveau des municipalités, comme vous voyez, Rome, qui est plus ou moins la même quantité que vous avez lu avant de la Provence, mais ça, c'est une question de découpage administratif, parce que la ville de Rome a une surface qui est plus ou moins la même de la Provence. Sinon, vous voyez que les données sont un peu plus baisses par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc, Milan, c'est la deuxième ville. Turin, qui a eu une hausse importante dans les dernières 10 années, et on a grosso modo plus de 50 villes avec plus de 10 000 étrangers, officiellement toujours, parce que les données sont par rapport aux gens qui ont un permis de séjour. Voilà la synthèse au niveau des cartographiés. Ça, et comme vous voyez, Naples ici, Palerme ici, sont les deux villes où vous avez une présence la plus importante. Voilà. Dernier passage d'échelle, ou non, pas encore, c'est l'avant-dernier. C'est le Mezzogiorno d'Italie dont on parle, dont on a parlé, dont on a eu l'impression que c'était une zone où la présence des étrangers était très faible. Mais en fait, il faut dire que dans la perception et aussi au niveau des études, on parle toujours du Mezzogiorno, on a parlé beaucoup du Mezzogiorno comme une macro-région où les gens arrivaient pour transiter, pour aller ailleurs, très souvent dans les régions du centre-nord. Pourquoi? Parce que c'était une passerelle. C'était un lieu, des lieux plutôt, où on pouvait flotter tranquillement dans une condition un peu ambiguë. C'est-à-dire, même si je n'ai pas un permis de séjour, j'arrive à toucher un petit travail. Même si je n'ai pas un permis de séjour, j'arrive à trouver quelqu'un qui m'héberge, etc. Une fois que j'ai mon permis de séjour, je vais partir ailleurs. Très souvent, dans la plaine du Pô, si au cas où, en tant que migrant, j'ai choisi de rester en Italie, bien évidemment. Donc, ça a changé beaucoup parce que, comme vous voyez, même face à des données et des pourcentages qui sont carrément plus faibles par rapport à ce que vous avez lu dans les régions du centre, dans les régions du nord, septentrionale, vous voyez qu'on a, par exemple, Campanie dont on va parler, au-delà de 200 000, sinon les Pouilles, 120 000, et sinon Sicile, 180 000. Le rapport avec les habitants, le pourcentage est faible aussi grâce à un nombre d'habitants très important. par exemple, même face à 232 000 étrangers officiellement présents, vous avez un taux de 4 % parce qu'il s'agit d'une région de 5 millions et 800 000 habitants, qui est comparable, juste pour donner à l'information que j'ai découvert ce matin-là, c'est la même taille de la Nouvelle-Aquitaine, mais avec une densité 10 fois plus par rapport à la surface. Voilà, Campani, qu'est-ce que c'était ? C'était toujours la région la plus importante du Mezzogiorno, avec des données, que, comme vous voyez, c'est une croissance qui porte à arrêter avec la perception d'une région de transit et avec l'idée que c'est que sont des lieux où on peut même s'installer. Mais en revanche, de l'autre côté, vous voyez que comme baisse, même si le dernier donné est un peu plus haut, le rapport de la présence des étrangers en Campanie par rapport à au total de la présence des étrangers en Italie. Donc, et ça, c'est pas une exception, la Campanie, ça vaut pour tout le monde. Ce sont des systèmes migratoires multiples en continue évolution. Il faut jamais penser aux étrangers comme un groupe cohérent qui a une idée ou un projet politique d'invasion. C'est ça la perception que certaines fois on a des médias. Et donc, quand on dit même... ils ont 5 millions, etc., comme si tout le monde avait la même idée, le même sentiment, etc. On a une, et ça c'est typique, je crois, de tous les pays qui ont une histoire d'immigration tout à fait récente par rapport aux pays qui ont une tradition plus longue. Donc, on n'a pas, sauf si, pour le cas de la Roumanie, une nationalité prévalente. Et surtout, à l'intérieur de toutes les nationalités, vous avez une différence entre femmes et hommes, et histoire migratoire, niveau de formation, choix qu'on fait, etc. Donc, la chose que j'ai besoin toutes les fois de répéter quand je vais faire des cours de formation, surtout et quand je fais des conférences au niveau... public et pas dans les universités, j'explique qu'il s'agit de 5 millions d'histoires différentes entre eux. On peut avoir des comparaisons, on peut avoir des groupes, on peut avoir des chaînes migratoires, qui ça veut dire avoir des liens entre des gens, mais on ne peut même pas penser que les Marocains, les Roumains, les millions de Roumains et plus qu'on a là, sont tous avec la même histoire, tous avec la même idée et tous avec le même projet, trajectoire migratoire. En retour, donc ça c'était en général, mais ça c'est très important, expliqué aussi au niveau de la Campanie qui est en train, bien évidemment, de devenir une région de sédentarisation. Une polarisation très forte sur Naples et sur l'aire métropolitaine de Naples, une croissance aussi des zones urbaines de Salerne et Caserte, on va voir, ils sont où. Au début du 2016, on avait 50% des migrants qui résidaient dans la province de Naples, 22% à Salerne, 19% à Caserte. C'est Salerne qui a changé beaucoup dans les dernières années. Salerne, avant, c'était vraiment très loin, même face à Caserte. Voilà, l'économie informée qu'on avait évoqué tout au début, que c'était Adeline d'en parler, a favorisé le premier accès à l'emploi et au logement, comme je disais avant. Économie informée, mais aussi économie illégale, il faut avouer ça. Mais en même temps, aujourd'hui encore, l'économie informelle a un rôle très important, parce que sinon, c'est difficile à expliquer le rapport qu'on a à une présence qui monte et un taux de chômage dans certaines villes, comme par exemple dans certains quartiers de Naples, qui dépasse 40%. Donc, c'est vrai qu'on a aussi la possibilité pour un certain type de secteur d'absorber tout, la présence des étrangers. Polarisation, on l'a déjà dit, et c'est toujours la même, les mêmes infos. Je ne sais pas pourquoi, désolé. Voilà, une région liée toujours à l'Europe, l'Est, comme on a vu aussi, bas au niveau national. Et comme vous voyez, et comme on a déjà évoqué avant, ce sont les Ukrainiens qui sont à la première place avec plus de 40 000 personnes. Et en même temps, il faut dire aussi que s'il s'agit d'une des régions les plus liées à la présence des femmes. C'est là un certain stéréotype qui Adeline n'aime pas beaucoup, bien évidemment. On parle d'une région rose, qui c'est vraiment une façon un peu caricaturale de présenter la chose, mais qui donne une idée d'un changement quand même au niveau des genres. Pourquoi ? Parce que c'est lié surtout aux aides au domicile et tout ça qui crée un bloc sur lequel je n'ose même pas parler parce que c'est le sujet d'Adelina, comme vous savez. Non è possibile, le ho doppiate tutte. Vabbè. Ça sont deux images très rapides au niveau. Ça, c'est la campagne et ça, c'est le découpage au niveau des communes. Comme vous voyez, la présence, ça, c'est Salerne, Naples. S'ils m'ont donné ça, c'est aussi fait exprès. Donc, Salerne, Naples, Caserte. Ça, c'est Benevento et Avellino sont les cinq chefs-lieux des Provence. Comme vous voyez, donc, c'est le développement de la présence d'émigrés est lié un peu aussi au développement, à l'urbanisation de la région. C'est quelque chose qui intéresse surtout la zone côtière, la zone littorale. Ici, surtout, la présence est liée à l'embouchement dans le secteur de l'agriculture et dans le secteur saisonnier du tourisme. Ici, c'est aussi dans les petites et moyennes entreprises. Et ici, c'est par exemple, vous avez ici Castelvolturno. C'est un des lieux les plus intéressants pour étudier la présence des migrants parce que cette ville-là, cette petite ville-là, a un taux de présence des étrangers qui dépasse 13%. Donc, ça, c'est un changement important sur lequel j'espère pouvoir reprendre à étudier bientôt. Pourcentage, on l'a vu. Dernier passage d'échelle, ça c'est un peu plus difficile à saisir, mais ça c'est quand même un peu plus renommé par rapport aux autres toponymes que j'ai évoqués. Ça c'est le centre-ville de Naples, un des centres les plus importants au niveau européen, quand même en termes de surface et en termes de patrimoine présent. Donc, vous avez ce qu'un anthropologue a appelé le monde, un monde de monde. C'est le monde de monde parce que dans une ère hyper urbanisée, comme je crois la silhouette peut montrer, vous avez des présences tout à fait différentes. Donc, ici, c'est la zone de la gare. Donc, c'est que la presse appelle des morceaux de Chinatown. Sinon, vous avez ici de l'Afrique subsaharienne. Ici, on a la présence du Sri Lanka, qui c'est très important, qu'on va voir après avec une photo. Sinon, ici, on a les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers espagnols, dont on a, c'est le toponyme, c'est héritage d'une histoire très ancienne, mais n'a rien à voir avec la présence des Espagnols, bien évidemment. Et ici, on a la zone l'ancienne zone industrielle, désormais pleine de friches industrielles, où vous avez une présence aussi des Ukrainiens. Sinon, ici, on a les couches haut et moyenne, la moyenne haute bourgeoisie, avec un embouchement au l'aide au domicile de pas mal de gens. Voilà. Ce que je parlais, c'est la synthèse du changement au niveau de la ville. C'est cette image-là. Les espaces du temps libre, jouer au cricket à Piazza del Plebiscito. Piazza del Plebiscito, c'est la place la plus importante de la ville de Naples. la place centrale, où très souvent les enfants des quartiers les plus pauvres vont pour jouer au foot, en espérant de devenir un nouvel, je ne peux même plus dire Maradona, parce que c'est trop vieux, mais sinon Higuaín, ou ce que vous voulez, qui vous connaissez. Et le fait d'avoir des jeunes qui sont là à jouer, des jeunes du Sri Lanka qui jouent au cricket, qui c'est une espèce de sport qu'on ne connaît pas du tout, qui n'est pas diffusé en Italie en général, pas du tout au sud de l'Italie. Je trouve que c'est quelque chose qui frappe et qui démontre un changement du paysage culturel. Dernier passage, mais j'y vais vite, je crois, oui, très vite, c'est le rôle des entrepreneurs étrangers dans le changement des villes. C'est l'aire métropolitaine de Naples. Qu'est-ce que je veux dire en synthèse? C'est que la présence des migrants pour essayer de franchir ce type de bloc social, ils sont très souvent, ils poussent beaucoup pour ouvrir des entreprises. Les petites entreprises très souvent sont composées par une personne, sont au niveau familial. C'est pas grave ça, mais c'est la démonstration qu'on essaie de pousser pour changer sa condition. Et donc vous voyez, on a pas mal de restaurants, on a pas mal de petits commerces, vêtements, etc. Ou sinon des petites associations qui s'occupent des nettoyages, etc. Ça sont les choses. Je vais vite. 10 minutes. OK. Parce que j'avais compris à 8 heures, il faut partir. OK. OK. Bon. Les entreprises des étrangers sont polarisées, bien évidemment, dans la ville de Naples, mais ça arrive très souvent en Italie. C'est-à-dire que la ville centrale, la plus importante, polarise la présence et polarise aussi la présence des entrepreneurs. La chose qui frappe est que même face à la crise qui est démarrée en 2008, vous avez eu une baisse très importante des entrepreneurs italiens et la capacité des migrants de tenir, et donc certaines fois aussi, ils ont enregistré une hausse de entrepreneurs migrants, même dans les années de la crise, qui, en fait, on dit que c'est fini, mais surtout dans certains coins de l'Italie, on n'a pas l'idée que cette crise elle est véritablement finie. Bon, ce sont des détails, ils ne sont pas importants. Je peux dire simplement quelque chose qui peut-être mérite d'être remarqué, la hausse des migrants, soit en termes de présence, soit en termes d'entrepreneurs du subcontinent indien. Ce sont les Indiens, les gens qui viennent du Bangladesh, qui viennent de l'Inde, du Pakistan, qui ont commencé à choisir l'aire métropolitaine de Naples comme lieu de sédentarisation, et en même temps, ils ont choisi de pousser sur le pédale des entrepreneurs. Passage encore sur les marchés à Naples, mais on n'a pas le temps. Ça, c'est la ville de Naples, juste pour comprendre. Et ce que vous avez vu avec le topographe, c'est la zone du centre-ville, celle-là. OK? Ici, vous avez les périphéries qui sont partie prenante de la ville au niveau du découpage. Pour essayer de expliquer, en fait, parce que ce dont disait avant Adeline par rapport à ma formation, c'est que c'est vrai que je m'occupe des géographies sociales, c'est vrai que les migrations internationales sont la chose sur laquelle j'ai étudié et j'écris plus, mais en fait, la chose pour moi en même temps très importante, c'est le côté urbain. C'est la ville, c'est quelque chose que j'ai étudié, surtout par rapport aux villes du Mezzogiorno. Et donc, aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des changements des villes, c'est quelque chose, c'est une des préoccupations scientifiques la plus importante pour moi. Donc, ce que vous lisez dans le titre, c'est la synthèse des choses que je voudrais vous dire. C'est la grande distribution, les lignes d'accessibilité qui contournent la ville de Naples, qui ont permis de contourner, bypasser, permettez-moi l'usage de ce type d'anglisme, parce que les transformations maintenant se jouent aussi dans la périphérie. Ou mieux, la périphérie, paradoxalement, d'un certain côté, ça devient de plus en plus central. Au niveau de la grande distribution, moi, c'est une question évidente par rapport aux besoins des espaces, mais au niveau aussi de du commerce en général. Ça, c'est quelque chose qui même la mafia napolitaine qui s'appelle Camorra a découvert bientôt. Parce que maintenant, le rôle des organisations criminelles est décidément plus important dans la périphérie que dans le centre-ville. Donc, on a pas mal de communes de la périphérie qui dépassent la moyenne de 4%. Je ne peux pas rester là parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du rapport de nombre d'entreprises étrangères dans les communes de la ville métropolitaine. Je trouve que ça, c'est une synthèse efficace de ce que je voulais dire. Comme vous voyez, on n'est pas que le numéro. La ville de Naples, c'est presque 7000 entreprises gérées par les migrants. Mais comme vous voyez, ça monte aussi dans les autres coins, surtout dans les deux dont j'ai présenté, j'ai mené en étude dans les dernières années. Ce sont Giugliano in Campania et San Giuseppe Vesuviano. Ici, comme vous voyez, de la silhouette du découpage, ici, c'est le Vésuve, le volcan. Donc, je crois que tout le monde, quand même, on a une idée. Donc, ça, c'est San Giuseppe, ça, c'est Giugliano in Campania. C'est pas important, mais si on a du temps après, on peut retourner pour expliquer les changements, même dans ces petites communes. Soi-disant petites par rapport à la taille. Parce que, par exemple, Giugliano in Campania, c'est une commune, c'est la commune la plus importante qui n'est pas chef-lieu en termes démographiques. Maintenant, Giugliano in Campania touche 125 000 habitants. Et c'est quelque chose, je pense surtout aux tailles démographiques que vous avez en France par rapport à Paris, et aux villes, aux métropoles d'équilibre, etc. Une taille comme ça, c'est quelque chose qui est comparable à quelques villes, à quelques métropoles. Bon, vous voyez, ce n'est pas la peine de rester trop de temps parce que c'est trop en détail. Mais en conclusion, ce que je voulais expliquer, c'est que le commerce des migrants peut être utilisé pour interpréter la ville, entre guillemets, déracinée, entre explosion et implosion, aussi au mezzogiorno. Donc, explosion et implosion sont des termes qui sont utilisés aujourd'hui dans la géographie urbaine, surtout dans un monsieur qui s'appelle Neil Brenner, qui n'a fait que lire et traduire quelqu'un qui vous, peut-être, connaissez très bien, qui s'appelle Henri Lefebvre, qui a écrit La Révolution urbaine à la fin des années 60, en prévoyant les changements qu'on a enregistrés sur le côté urbain, en disant qu'on a ce dit de phénomène qui, au fur et à mesure, va se passer. Implosion et l'explosion, implosion de centre-ville, explosion au niveau d'un processus d'urbanisation mondiale qui ne nous donne pas la possibilité d'avoir des périmètres très clairs et très nets entre ce qui est urbain et ce qui n'est pas urbain. Donc, les passages sont très connus, la mondialisation, le processus de tertiarisation, etc. Le rapport qu'on a avec la crise, la réaction à la crise des migrants, avec ce que vous avez vu par rapport aux entrepreneurs. Donc, mon idée, c'est que grâce aux transformations urbaines qui sont poussées par le commerce des migrants, ce cas-là, et surtout aussi à travers la consommation et donc le changement du paysage urbain et du paysage culturel en général, on a la possibilité d'avoir un point de vue différent pour interpréter le changement et définir une ville, les villes d'une façon différente. Merci.
Bon, merci beaucoup Fabio. Tout d'abord, merci pour cet exposé qui est clair et synthétique. Je trouve que quand même c'était un défi. Passer de l'échelle nationale à l'échelle urbaine jusqu'à arriver vraiment au petit... Bon, on n'a pas tout vu, mais il y avait aussi l'échelle des quartiers. À un certain moment, tu n'as pas pu développer toute cette partie. Et j'ai beaucoup apprécié de mon côté le travail des cartographies. Parce que ça permet effectivement de voir les choses. Quand on n'est pas géographe, on est toujours étonné pour ce travail qu'on peut faire. Moi, j'aurais plein de questions, mais je vous laisse la parole. S'il y a des questions, des observations, ou même des choses qu'on peut, sur lesquelles on peut revenir.
Merci pour cette présentation qui résume bien et surtout pour nos collègues français peut-être qui n'ont pas la même vision de l'immigration italienne. Alors, je ne sais pas si c'est une question pour toi, pour vous ou pour Adeline. Est-ce que dans toute cette étude, on peut faire ressortir voilà, la présence féminine et masculine ? Si vous avez des données. On a parlé beaucoup, évidemment, de l'aide à domicile. Philippines, c'est le nom courant que les Italiens donnent voilà, aux femmes qui s'occupent du ménage, les Ukrainiennes pour les enfants, les personnes âgées. Est-ce qu'il y a des données, bon, à part ces zones roses, voilà, ce quartier-là, par rapport à certaines régions, est-ce qu'on peut faire remonter cela ?
Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi, j'avais beaucoup, beaucoup de questions et je ne sais pas comment faire. Je vais peut-être en choisir quelques-unes. Bon, j'avais une question, mais qui est assez secondaire. Mais enfin, je le fais dans l'ordre que j'ai noté. Hein. Effectivement, vous avez rappelé que l'Italie, c'était quand même aussi un pays d'émigration, hein, donc de départ. Et est-ce qu'on a une idée du solde migratoire aujourd'hui, c'est-à-dire la différence entre le nombre de départs et le nombre d'arrivées. Alors, il y avait une autre question. Excusez-moi, hein, c'est un peu... elles sont pas très organisées, mes questions, mais ça vient comme ça. Alors, vous avez fini l'exposé avec sur l'idée de ville déracinée. Et ça, j'aimerais bien savoir ce que vous entendez par là, enfin, que vous nous précisiez. Une autre question, ça concernait l'immigration interne. Hein. Alors, et notamment, je me posais la question, parce qu'on, oui, des migrations internes, mais des étrangers, en quelque sorte, c'est-à-dire les migrations une fois qu'il, enfin, des étrangers en Italie vers d'autres régions. Et puis aussi, j'avais une question à propos de l'économie informelle, parce que quand on parle... Alors, bon, les étrangers sont présents dans l'économie informelle, mais par ailleurs, alors quand on voit ça de l'extérieur, hein, par exemple de la France, l'Italie, l'économie informelle, ça tient une place importante. Alors donc... est-ce que c'est la même économie informelle ? Est-ce que c'est d'autres secteurs ? Enfin, bon, etc. Voilà, pour quelques-unes des questions.
Merci, Fabio. Moi, ce n'est pas forcément une question, c'était plus pour alimenter la discussion sur la présence des Roumains en Italie. Avec des collègues, on coordonne un programme de recherche qui s'appelle Margine sur les politiques de régulation de la pauvreté des populations roms. Donc on a plusieurs terrains, Italie, France et puis Espagne. Donc, si je laisse un petit peu de côté les terrains qui sont faits en Espagne, donc en Italie, pardon, les Roms qu'on a interrogés en France et puis en Espagne, sur la totalité de notre échantillon, pour l'instant, sont presque tous passés par l'Italie et qui plus est par les différentes régions qui sont mises en exergue dans tes différentes cartes. Donc, ça vient en fait complètement alimenter en fait ce que tu nous disais vis-à-vis de ces statistiques. Et puis, quand on s'intéresse un petit peu à la langue parlée, donc par ces personnes-là, on s'aperçoit que l'italien est une des langues les plus parlées après, de façon fluide, après le roumain et le romani. Donc, ça vient confirmer totalement les stats que tu nous as présentées. Et donc, alors, si du coup j'avais une petite question, alors c'est pas une question, c'est plus pour m'éclairer un petit peu. J'ai pas compris le lien entre sur une slide tu mettais l'économie informelle favorise l'accès au logement. Et en fait, j'ai pas du tout compris le lien entre les deux. Est-ce que tu pourrais, en quoi l'économie informelle du coup peut faciliter l'accès au logement?
Merci pour les questions. Sur la présence féminine, j'ai du mal à la présence de parler, mais en fait, il faut dire que c'est un peu caricatural de penser que les femmes sont femmes de ménage, enfin, etc. C'est vrai que c'est le premier embauchement, mais il faut remarquer qu'au moins deux aspects. Le premier, qu'on a pas mal de femmes qui travaillent, qui sont... qui gèrent des entreprises qui font de la migration circulatoire, dont par exemple quelqu'un qui vous connaissez très bien qui s'appelle Camille Schmoll a travaillé sur ça et expliqué ça, qu'on a pas mal de femmes qui viennent du Maghreb et qui circulent dans la Méditerranée en, tout en passant par l'Italie, et donc ils travaillent aussi de ce côté-là. Sinon, l'exploitation des femmes, on a des aspects un peu plus dramatique concernant la prostitution, par exemple, en provenance de la Nigérie. Ou sinon, on a aussi des autres aspects concernant l'agriculture, dont il n'y a personne jusqu'à ce moment-là qui a été encore capable de travailler sur ça. C'est-à-dire, tous les fois, on a parlé de l'agriculture, des migrants en agriculture, chez Migranter, et j'ai déjà dit ça. En fait, c'est quelque chose dont quelqu'un doit parler, parce qu'il y a du monde qui dit qu'on a des femmes qui travaillent, qui sont exploitées, qui sont en rôle, etc., mais il n'y a personne qui étudie. Donc, c'est vrai qu'on a les deux extrêmes, comme vous voyez, au niveau des entreprises et au niveau un peu bas des gammes du travail. Mais c'est vrai que c'est un peu caricatural de dire que c'est pour ça que j'étais un peu coincé, parce que c'est une région rose, c'est une façon pour bloquer les femmes comme femmes de ménage. Alors, peut-être, monsieur Maman, votre façon de présenter, c'est aussi à cause de ma présentation. Donc, les suggestions sont venues au fur et à mesure. C'était, je crois, aussi ma faute. Je vais essayer de, avant tout, lire les choses que j'ai écrites. Pays des migrations, oui. Nombre de départs, nombre d'arrivées. Je peux dire ce qui se passe au niveau de la campagne, parce que c'est quelque chose que j'ai en contrôle. Je vous dis qu'en 2016, par exemple, on a eu 12 000 qui partaient de la Campanie. Ils sont partis dans les régions du Nord et surtout ailleurs, à l'étranger. Donc ça, c'est un point de repère. Mais en fait, au niveau du solde, c'est déjà à partir de la fin des années 70, oui, qu'on a eu un changement. C'est-à-dire les immigrés sont plus que les émigrés. Donc ça fait 40 ans. C'est pour ça que même quand on a compris qu'on est devenu un pays d'immigration, Et au bout d'un moment, on a dit, on a des étrangers, on est immigrés. Il y a quelqu'un comme Enrico Pugliese qui soulignait, remarquait, écoutez, c'est vrai, ça, on a eu un changement, mais ce n'est pas à ce niveau-là. Mais on continue à émigrer. Ben, c'est une immigration un peu plus sélective. Ce sont des gens qui ont une formation. Ce sont des gens qui essaient. C'est pour ça qu'on parle de fuite des cerveaux, très souvent. Ville déracinée, c'est l'image de... c'est un peu ma préoccupation au niveau scientifique, qui comprend qu'est-ce qu'il devient de la ville. Et j'ai l'impression aussi qu'on continue à réfléchir et à penser à la ville comme quelque chose de bloqué, quelque chose avec qui on peut le lire avec les habitants, point. Les gens qui sont sédentaires dans la ville, ça nous empêche de comprendre les changements, l'ouverture, ce qu'un autre géographe anglais qui s'appelle Achamine nous a dit, qu'en fait, on ne peut pas avoir des limites, même face aux limites du point de vue administratif. Parce que la ville, c'est quelque chose avec, dans laquelle on passe très souvent. Et donc, les usagers ont un rôle très important par rapport au CDN. C'est pour ça déraciner. Et je crois que la présence des migrants, qui, ça se relie aussi à une autre question que vous m'avez posée, la mobilité des migrants. C'est expression du fait qu'on change un paysage culturel, on change donc un paysage urbain, mais après on bouge. Et donc le fait d'être un peu partout et certaines fois aussi retourner dans la même ville dont on est parti, ça démontre le fait qu'en fait, ville, c'est pas une boîte enfermée, mais c'est quelque chose sur laquelle on peut... C'est pour ça que je parle de déracinement. En fait. Et en ce qui concerne la présence des migrants, du point de vue culturel et social, ça pousse aussi vers l'identité et vers les racines dont très souvent on bavarde, et on dit nous, et certaines fois d'une façon provocatoire, je dis nous qui par rapport aux Italiens, nous qui par rapport aux Napolitains, parce que tout le monde a une histoire de changement, etc. Migration interne, on a en fait parlé parce que tout au début c'était comme ça, on arrivait au sud et on partait vers le nord. Ça continue, mais aussi à l'envers, certaines fois. C'est toujours par rapport à ce que je n'ai pas présenté, mais dont on a déjà parlé à Migrantaire la semaine dernière, c'est qu'il faut remarquer qu'on a la possibilité, grâce au secteur des saisonniers de l'agriculture, d'avoir des gens, même avec un permis de séjour, qui circulent très souvent dans la botte. Et donc, qui vont au sud, ils vont en Calabre, ils vont au Pouille, parce qu'ils essayent de garder un peu un revenu moyen. Et donc, ça, c'est un autre aspect de la circulation. Sinon, la mobilité entre le pays de départ et l'Italie, c'est quelque chose qui arrive très souvent, mais qui, je crois que c'est difficile à saisir, et on n'a pas du tout des gens qui étudient ça. Le retour, surtout face à la crise, qu'est-ce qui s'est passé? Si on a une mobilité, les gens qui arrivent et qui débarquent au sud de l'Italie, ils n'ont pas envie de rester en Italie. Ils pensent au Royaume-Uni, certaines fois ils pensent à la France, surtout ils pensent à l'Allemagne pour y aller. Ils ne peuvent pas. Comme vous savez, on a la déclaration de Dublin qui nous empêche d'envoyer les gens. Comme vous savez bien, par rapport à la frontière entre Ventimiglia et la France, on a eu pas mal de problèmes par rapport à Schengen, etc. Donc, en principe, la mobilité des gens, et surtout en ce qui concerne la mobilité entre l'Italie et le pays de départ, par exemple, surtout aux Roumains, aux Bulgares, qui au bout d'un moment, ils sont... casse intégration, comment si vous dire, au chômage, mais ils sont payés au chômage et ils rentrent chez eux en attendant de pouvoir reprendre à travailler. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui frappe beaucoup la société italienne, qu'ils disent, qu'ils accusent ces gens-là de manger l'argent italien, etc. Même les choses dont on a pas eu la possibilité de parler, il faut rappeler que 9% de produit intérieur brut italien est bâti grâce et construit par les migrants. Que 10% des titulaires d'habitation, des propriétaires d'habitation sont migrants. Donc, aussi à ce niveau-là, a changé beaucoup. Comme vous avez vu par rapport aux entrepreneurs, on a maintenant 550 000 étrangers qui sont titulaires des entreprises. Donc, ce n'est pas exactement la pauvreté qui frappe à la porte de la richesse. Tout à fait. Économie informelle, oui, c'est vrai. 22%, les dernières données, c'est 22% du PIB italien est construit sur la base de économie informelle. Et c'est la même économie informelle. C'est ça que peut-être, pour aller vite, je n'ai pas expliqué. C'est le rapport qu'on a avec les lieux, avec les pays. Les migrants, très souvent, et bien, ce n'est pas à vous que je dois expliquer ça, bien évidemment, sont le miroir de la société, de l'économie et de la production qu'on a dans un pays. Et donc, c'est un pays tertiarisé qui se fonde sur l'économie informelle et qui a un marché du travail très fragmenté. Et ça se voit à travers l'embouchement des migrants. Donc, l'économie informelle, ce n'est pas autre économie informelle, mais c'est l'économie informelle, c'est le lieu sur lequel ils sont tombés, ils sont bien tombés dans certains aspects, pour certains aspects, les migrants. Donc, Roumains et Roms sont des choses tout à fait différentes, bien évidemment, mais en ce qui concerne la présence des Roms et des Sinti, au-delà des Roms, l'Italie est très renommée, mais il faut dire qu'on a pas mal de gens qui sont Roms et qui sont Sinti, qui sont des citoyens italiens, à tout heure. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. La présence de la population roumaine en général, pas liée aux Roms en particulier, et liée surtout au va-et-vient par rapport à la Roumanie. C'est-à-dire on a pas mal d'Italiens qui sont investis dans les villes roumaines, et on a qui fait démarrer une espèce de chaîne à l'envers. Donc, on a des entreprises italiennes qui embauchent des Roumains, on a des entrepreneurs italiens qui ont quitté l'Italie pour aller exploiter en Roumanie où le coût du travail est décidément plus baisse. Donc, ça, c'est au niveau de la Roumanie. En ce qui concerne les Roms et les Sinti, je n'ai pas beaucoup d'informations, ça n'a été jamais mon sujet, mais je sais que, par exemple, on a un problème aussi d'enfermement, on a pas mal de camps, qui est la démonstration, la perception que les Italiens ont des Roms, ils ne savent même pas qu'on a du monde entre les Roms, qui sont des citoyens italiens, et ils pensent qu'ils veulent vivre comme ça, dans les camps, qu'ils vivent simplement pour voler, pour la quête, comme se dit, la qualité, la manche, etc. Mais ce n'est pas du tout comme ça. Habitation, économie informelle, j'ai écrit, je ne me rappelle plus que ça avait dit. Ah, si, quel est le lien entre les deux? Ok. C'est toujours un passage très vite. En fait, l'économie informelle, je pense surtout au sud de l'Italie, en particulier dans la ville de Naples. L'économie informelle s'explique aussi par rapport à une certaine souplesse de la façon de gérer les rapports entre propriétaires et locataires. Donc louer sans payer un certain type d'impôt, sans déclarer les choses, voilà. C'est un côté plutôt illégal qui est informel. Mais c'est une formalité des relations, c'est ça que je voulais dire. Et je crois que louer des appartements, c'est partie prenante de l'économie qui fait bouger un peu l'économie. C'est pour ça que je voulais dire que les deux, bien évidemment, l'économie informelle, ça fait partie du marché du travail et pas du marché de l'habitat. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une certaine informalité, ou pire, illégalité de la façon de gérer les choses. Et donc, si même si on n'a pas le droit d'y habiter parce qu'on n'a pas l'auteur, parce qu'en Italie, par exemple, une habitation doit être plus de 2,70 m. Mais on a du monde qui vit dans des conditions tout à fait différentes, surtout dans le centre-ville, c'est ça que je voulais dire. Et dans la même... c'est sa stanza. Dans la même pièce, vous avez 5-10 personnes. Et ça, c'est une formalité qui touche bien évidemment l'illégalité, mais qui c'est la façon qui permet aux gens, sans avoir permis de ce jour, de survivre. C'est ça que je voulais dire. Ok. Je ne sais pas si j'ai à tout répondu.
Je pense qu'on peut continuer à l'extérieur, parce qu'il y a 8 heures. Il faut quitter la salle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et merci beaucoup encore à Fabio pour ton intervention.
On est Suisse, on n'est pas italien.